écosystème, c'est-à-dire un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, animaux et végétaux, qui interagissent entre eux. D'après l'auteur de l'étude, les chercheurs ont été stupéfaits lorsqu'ils ont pris la mesure de leur découverte. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Olivier Pron pour Radio Foot International.
Lucie Bouteloup. Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.
18h10, 19h, Topette, sur Radio G.
Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sûr sur Radio G au 101.5 FM et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Topette. Ce soir, c'est Sidonie à l'antenne et c'est ma dernière à Radio G. Donc j'ai prévu une émission tranquille mais toujours aussi intéressante, donc installez-vous confortablement. Ce soir, nous accueillerons notre invité de la soirée avec Colin. Bonsoir Colin.
Bonsoir.
Alors Colin, est-ce que tu peux nous dire rapidement de quoi nous allons parler et avec qui ?
Alors ce soir, on reçoit Nolwenn, qui est la fondatrice d'Éclat de Folie, une entreprise de maquillage et d'esthétique, et qui va nous parler d'une soirée qui aura lieu mercredi 1er juillet prochain, Ladies Beauty Night.
Eh bah, merci Colin, et hâte d'en entendre davantage tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout, nous aurons aussi de l'humour au programme, car nous accueillerons LB, qui je l'espère, nous contaminera son sourire. Puis la chronique 1 et demi. Avec, pour une fois, seulement Mathéo, qui viendra tout seul. Ça parlera de cinéma, comme d'habitude. Et pour finir, petit moment détente avec Colin, Marie et Simon, où nous allons débattre sur des sujets généraux. Bonsoir Marie, qui est loin du micro.
Bonsoir.
Et bonsoir Simon.
Bonsoir Sidonie, bonsoir tout le monde.
Bon, j'espère que l'émission va vous plaire. Il y aura un bon programme. Et maintenant, nous allons accueillir notre invité spécial avec Colin.
L'invité de Topette sur Radio G.
Oui, donc comme on le disait en introduction, on est avec Nolwenn ce soir, donc fondatrice d'Éclat de Folie. Et aujourd'hui, on va parler donc de Ladies Beauty Night, une soirée festive, bien-être et inspirante, le mercredi 1er juillet prochain dans le hall végétalisé de Terra Botanica. Et cette soirée, donc, elle a lieu à l'occasion des 10 ans de ton entreprise Éclat de Folie. Est-ce que, avant de commencer, tu peux un peu nous parler de ton entreprise Éclat de Folie et ce que tu proposes à travers cette entreprise?
Oui, bien sûr. Donc, je me suis mis à mon compte en 2016 et ma passion, c'est avant tout le maquillage. Au début, j'ai commencé en tant qu'esthéticienne. Voilà, j'avais également le maquillage à côté. Et au bout de plusieurs années, j'ai réussi à enlever toute la partie esthétique et garder uniquement le maquillage, ma passion première. Et je suis également devenue formatrice en maquillage pour transmettre ma passion.
Et donc la soirée Ladies Beauty Night, c'est pour célébrer les 10 ans donc, de ton entreprise. Pourquoi tu as choisi de célébrer cet anniversaire à travers un événement comme celui-ci?
Alors tout simplement, je voulais mettre en avant l'entrepreneuriat féminin et local pour montrer la réussite de plusieurs entrepreneuses et passer une bonne soirée, voilà, avec d'anciennes clientes, de futures clientes et également des personnes inspirantes. Ça peut être également des amis, des proches, enfin voilà, toutes les femmes sont les bienvenues.
Et donc, à cette soirée-là, qu'est-ce qu'on pourra y retrouver? Tu peux faire un petit tour rapidement?
Bien sûr. Alors, il y aura de nombreux stands gratuits, comme par exemple la coiffure, le massage, bar à paillettes, bar à rouge à lèvres, tirage de cartes, brolift et lashlift coréen. Il y aura également des stands payants, comme par exemple le tatouage permanent ou éphémère. Il y aura également une démonstration de karaté féminin avec Angé Budo Karaté. Je ferai une masterclass de maquillage pendant la soirée et il y aura un tirage au sort avec plein de lots à gagner.
Tu as dit que tu souhaitais mettre en avant les entrepreneuses locales du Maine-et-Loire. Pourquoi c'est important pour toi de mettre en avant ces femmes?
Alors j'en fais partie et j'avoue, comme beaucoup je pense, j'ai beaucoup douté dans les débuts, douté de pouvoir en vivre, de pouvoir arriver jusque-là. Et c'est vrai que la plupart des personnes qui nous entourent, qui ne sont pas forcément à leur compte, nous font douter encore plus, d'où le fait que ce soit satisfaisant et vraiment montrer cette réussite et montrer que nous sommes tout ensemble et qu'on peut également se créer un réseau, etc. Je trouvais ça primordial de mettre ça en avant.
L'événement, il est présenté comme 100% féminin. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce choix ?
Alors, je ne veux pas exclure les hommes, mais ils vont s'ennuyer clairement s'ils viennent à la soirée, tout simplement. C'est vraiment être entouré justement, de femmes et puis de pouvoir échanger justement sur l'entrepreneuriat ou sur en tant que mère de famille ou autre. mais voilà, les hommes bien entendu pourraient venir, mais on n'y verrait pas trop l'utilité, ils s'ennuieraient plus qu'autre chose.
Et du coup, pour continuer un peu là-dessus, elle s'adresse à qui cette soirée ? Est-ce qu'il faut être passionné de maquillage, de mode, ou ça peut vraiment être tout ?
Toutes les femmes sont les bienvenues, tout simplement. Le principal, c'est de vouloir prendre soin de soi, de se détendre, de s'inspirer aussi. C'est les deux mots les plus importants de la soirée pour moi, c'est bienveillance et inspiration.
L'événement, il se déroule donc dans le hall végétalisé de Terra Botanica. Pourquoi déjà avoir choisi ce lieu, et puis comment ça s'est passé un peu dans le cheminement pour arriver jusqu'à ce lieu ?
Bien sûr. Alors, je connaissais déjà le hall végétalisé de Terra Botanica, car j'ai eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises avec eux. Donc, notamment, pour les printemps de Terra Botanica, ou les envolées végétales. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé au magnifique hall végétalisé qui fait 350 mètres carrés. Et c'est vraiment un magnifique endroit. Le côté végétal me plaisait énormément, parce que la soirée est très fleurie.
Voilà, on retrouvera un lien entre le végétal du Terra Botanica et l'événement.
Oui, tout à fait.
Donc, comme tu l'as dit, au programme, il y aura des stands beauté, des ateliers, des massages, des lots à gagner. Comment tu as construit la programmation ? C'est quoi les choix que tu as fait pour arriver à cette programmation ?
Alors, tout simplement, je me suis mis à la place des personnes qui viendraient à la soirée. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais retrouver dans cette soirée ? Et je trouve que ce qui est très important et ce qui manque souvent, c'est le fait de se déconnecter, de prendre soin de soi, de se dire stop, j'ai besoin de me faire plaisir. Voilà, que ce soit en étant maman ou en étant chef d'entreprise ou autre. Et j'ai construit ça en pensant justement à tout ça.
Tu trouves qu'on se fait pas assez plaisir, on prend pas assez de temps dans la vie de tous les jours
Bah personnellement, oui, je trouve. Après, on est toutes différentes, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on a souvent une vie à 100 à l'heure et on met parfois entre parenthèses nos loisirs, et c'est bien dommage.
Et est-ce que parmi toutes ces animations, il y a un moment ou un truc dont tu es peut-être particulièrement fière ou tu as hâte que les gens découvrent ?
Eh bien déjà, la soirée en soi, j'en suis fière d'avoir pu la concrétiser. C'était vraiment un rêve, un accomplissement. Et de m'entourer de femmes aussi talentueuses et inspirantes, tout simplement.
Et donc la soirée, c'est le 1er juillet. Et c'est quoi déjà le créneau horaire ?
C'est à partir Oui, c'est à partir de 19h jusqu'à 23h minuit à peu près.
Et donc au-delà de la beauté, on sent qu'il y a une volonté de créer un moment de rencontre et de partage entre les femmes. Est-ce que c'est... finalement, l'aspect le plus important de la soirée, comme tu l'évoquais.
Oui, tout à fait. Oui. Le réseautage, comme j'en parlais, le fait de rencontrer des personnes passionnées qui veulent transmettre en fait leurs compétences et également leurs prestations. Voilà, pour nous faire du bien, pour nous chouchouter tout ça.
Parce que toi, à tes débuts en tant qu'entrepreneuse, c'était compliqué de se faire un réseau et une place.
Oui, tout à fait. Quand on débute, en fait, on n'a aucune notion en général d'un business, de gérer, etc. D'où le fait que je mets l'accent sur ça dans mes formations. On n'apprend pas que le maquillage, il y a vraiment le côté accompagnement et business. Et c'est important, surtout dans les débuts, de se former à différentes notions pour se développer, tout simplement.
Et donc, c'est une première édition, donc à l'occasion, comme on l'a dit, du 10e anniversaire d'Éclat de Folie, et donc une occasion particulière. Mais est-ce que ça pourra amener d'autres éditions qui correspondraient pas forcément à un anniversaire, mais juste parce que la première édition aurait fonctionné ?
Alors, je m'attendais à cette question. En toute honnêteté, j'en ai aucune idée. J'attends de voir déjà comment se passe la première. Et si c'est un succès, si ça plaît, etc., bien entendu, j'envisagerai une deuxième édition.
Et pour terminer rapidement, est-ce qu'il y a des infos pratiques à retenir ? Peut-être un site, des réseaux sociaux et puis des réservations, des infos pratiques sur l'événement ?
Oui, bien sûr. Pour la réservation, le lien est dans ma bio Instagram Éclat de Folie, éclat avec un S. Et du coup, vous pouvez donc réserver via ce lien. C'est sur billets web. Sachez également que l'événement est accessible aux personnes à mobilité réduite. C'était important, je trouvais, de le souligner. Si vous venez, prévoyez une tenue légère parce qu'il fera certainement chaud ce soir-là. Voilà, et dans tous les cas, on aura de quoi se rafraîchir et se restaurer également.
Et c'est un événement qui est gratuit ou payant? J'ai pas demandé.
Alors, c'est un événement payant.
Oui.
Il y a des tarifs préférentiels jusqu'au 15 juin, pardon. D'accord. Et après, du 15 juin au 1er juillet, enfin, fin juin, du coup, ce sera les tarifs plats.
Voilà. Et bah, merci Colin et merci Nolwenn pour ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site, même si vous y allez pas, même si, bon, on va pas se mentir, il faut y aller. De toute façon, ça va être une très très bonne soirée. Et tout de suite, nous allons accueillir LB.
Bonsoir à tous et à toutes. Je vais parler très doucement aujourd'hui car on me dit souvent que je n'articule pas assez. Pour vous dire, la dernière fois que j'ai fait une chronique à la radio, j'ai tellement mâché mes mots que même moi j'ai rien compris à ma chronique. Je remplace aujourd'hui Adrien qui n'a pas pu être présent avec nous. Et comme il nous manque à tous, je vous propose de faire une minute de silence en son nom. Alors il est pas mort, hein. Tout va bien, heureusement. C'est juste que je cherche à gagner quelques minutes parce que en fait j'ai pas écrit assez de blagues pour tenir les 3 minutes qui me sont allouées. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans Topette sur Radio G. Enfin, ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un faux cul. En réalité, je suis content, mais sans plus, quoi. J'avais pas forcément envie de faire une chronique à la base. Je suis surtout là pour donner un coup de main à un pote. J'ai rien contre vous, hein. Je me suis juste pas levé un matin en me disant, tiens, si j'allais parler dans un micro pendant 3 minutes pour raconter ma vie à des gens qui n'en ont rien à faire. Le seul truc qui me donnait vraiment envie de venir ici, c'est que pour une fois, vu que je m'appelle Louis-Baptiste, j'allais pas être celui qui a le pire prénom dans la pièce. Mais bon, Pierre Benoît n'est pas là. En réalité, je serais bien resté chez moi à ne rien faire dans mon lit, mais c'est déjà le programme du reste de ma semaine. Donc là, je passe tellement de temps dans mon lit que ça commence à en perdre sa saveur. En fait, je me force à sortir et faire des trucs que j'aime pas trop, juste pour apprécier la chance que j'ai d'avoir un lit et du temps pour en profiter. Je pense même que le boulot, ça a été inventé pour ça, en fait. Pour qu'on déteste nos journées jusqu'à ce qu'on retrouve le paradis de notre petit lit douillet. Non, il n'y a que moi. Non. C'est vrai qu'en étant au chômage, je passe énormément de temps de chez moi, dans un 12 mètres carrés. Autant vous dire qu'entre passer du temps dans la kitchenette, au bureau ou dans un lit, le choix est vite fait, voilà. Et pourtant, c'est la même pièce. Et moi, j'adore passer du temps dans mon lit. Mais là, je commence à saturer. Je crois qu'en fait, je suis en burn-out du chômage. Je passe trop de temps à rien faire. Vous me direz, profite, on n'a pas tous cette chance. Mais je profite. Je profite tellement que je passe plus de temps allongé qu'assis et debout réunis. J'en suis presque à regretter de ne pas avoir de travail. Et en tant qu'artiste, normalement, c'est important d'avoir du temps libre, de pouvoir s'évader mentalement et trouver de nouvelles idées. Mais là, je me suis pas évadé, je me suis perdu. Je crois que je me suis tellement perdu que je pourrais jamais revenir, en fait. Je sais même plus comment on fait pour travailler. J'ai perdu l'habitude de faire des choses, de faire des efforts. Je me suis rendu compte que chez moi, si on me donne rien à faire, bah, je fais rien. Voilà. Ça paraît logique comme ça, mais il y a des gens, ils arrivent à se motiver tout seuls. Tout seuls, ils se disent, tiens, et si je faisais ça? Et ils le font. Comment on pourrait se motiver à faire des efforts quand on peut s'amuser avec TikTok? Pour ça, j'ai vu un hochement de tête à côté, ça m'a fait rire. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ces chroniques, en fait j'avais juste besoin d'un petit coup de pied au cul, d'une petite deadline et surtout de quelqu'un à ne pas décevoir. Pour moi, écrire cette chronique, ça a été un véritable combat, un chemin de croix en fait, pour retrouver goût à l'effort, retrouver la satisfaction de réussir quelque chose par moi-même, alors que j'aurais pu juste faire cette chronique en 20 secondes sur ChatGPT ou n'importe quel autre modèle d'IA. Voilà, j'ai préféré passer 3 jours à me faire chier à écrire tout ça. Maintenant, j'espère que cette chronique vous a plu et moi, je vais aller retourner dans mon lit. Merci.
Eh ben, merci beaucoup, LB, d'être venu et d'être aussi sincère, on va dire. Tu fais de la concurrence à Adrien, il faut qu'il fasse attention à sa place, hein. Est-ce que, du coup, tu as des réseaux pour qu'on te retrouve peut-être quelque part?
Ouais, on peut me retrouver sur Instagram et mon arrobas, c'est L-B, tout en lettres.
Eh ben, parfait, ben, merci beaucoup. Au plaisir, tu peux revenir quand tu veux.
Très bien, si j'arrive à sortir mon lit.
Te rebooster à travailler. Et puis bah encore merci à tout le monde. Et maintenant, grand moment attendu. Il va bouleverser le futur du cinéma. Il s'agit bien sûr de Mathéo pour sa chronique 2 et demi.
Vous le savez, nous sommes 2 à faire cette chronique, mais aujourd'hui je suis seul, mal de dents oblige, Johan ne sera pas là. Alors pour contrebalancer, comme je reviens du festival de Cannes, que j'ai très envie de parler des œuvres que j'ai vues là-bas, eh bien ce n'est pas un, mais 2 films que je vais présenter aujourd'hui. Cannes 2026, c'était notamment l'occasion de retrouver des cinéastes européens qu'on aime, je pense à Arthur Harari, à Pedro Almodovar, à Lucas Dont, à Pavel Pavlikovski, et à Rodrigo Sorogoyen, le réalisateur espagnol connu pour Asbestas, El Reino, ou encore Madré revient avec un long métrage présenté en compétition et sorti à salle en même temps. L'être aimé, ou en version originale El Ser Querido, c'est le film à voir en ce moment au cinéma.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Hace muchos años, ¿no?
13 años.
Bueno, la película se llama Desierto.
y que me encantaría que fueras parte de ella y que fueras el personaje de Gabriela.
Vale, corta.
¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
No, vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
Bueno, para mí sí, quizás.
Esteban Martínez est réalisateur de films célèbre, mondialement reconnu pour ses œuvres mais aussi pour ses frasques. Il revient en Espagne avec deux Oscars en poche et une carrière bien remplie pour tourner un nouveau film. Désert, c'est ainsi qu'il le nomme, sobrement. Pour le rôle principal, il veut sa fille, lui qui l'a abandonnée il y a 13 ans, irresponsable et la tête tournée vers les étoiles, revient comme une fleur dans sa vie. Emilia Vera, fille unique donc de l'union rapide entre Esteban et l'actrice principale du film qui lui a donné la renommée qu'il a aujourd'hui, a pourtant tenté de se rapprocher du milieu du cinéma pour le comprendre, pour lui montrer qu'il avait tort en s'immisçant dans le médium pour lequel il les a lâchés, elle et sa mère. On ne le sait pas vraiment. Ce que l'on connaît d'elle, par contre, c'est l'échec, non pas qu'elle soit mauvaise actrice, hein, la chose est d'ailleurs peu abordée dans le film, mais c'est ce refus de la part du cinéma de l'accepter qui résonne comme l'ultime abandon de son père. Alors, lorsqu'il revient chercher celle qui vit toujours avec sa mère, celle qui travaille désormais dans le bar du coin, le goût est amer, mais la proposition envoûtante. Alors, elle accepte, le tournage devient la confrontation de deux histoires qui auraient pu faire qu'une. D'un côté, d'un passé qui a saboté présent et futur, et d'une masculinité à la toxicité qui bat des records. La plaie jamais pensée risque donc de rester à tout jamais comme le fardeau du cœur. C'est tout l'enjeu du film de Rodrigo Sorogoyen.
¡Cago en Dios! ¿Tengo que llevar yo la cámara o qué? No me des tanto suelo, por favor.
Que no hace falta hablar así, con esta violencia.
¿Perdón?
He venido aquí a trabajar. A ser actriz en tu película, pero no he venido a ser tu hija.
Ce synopsis peut vous parler, un cinéaste qui filme un cinéaste, la proposition n'a rien de vraiment original. Hein. Un père qui essaie de renouer les liens avec sa fille en passant par le cinéma, cela n'est pas vraiment original non plus. Quoique, cette impression elle existe aussi car l'année passée a été marquée par la sortie en salle de l'horrible Valeur sentimentale, de l'horrible Joachim Trier. Voilà, c'est un film que j'aime pas du tout, que je trouve vide, qui se voulait classe et profond avec des enjeux plutôt affreux, hein, dilués dans une mise en scène élégante, presque pédante. Pourtant, des bons réalisateurs de films bourgeois, on en a, hein, Bergman en tête de file. Joachim Trier ne fait pas partie de cette liste. La comparaison tient juste dans l'idée du scénario. Les deux films sont foncièrement opposés dans le fond comme dans la forme. Sorogoyen, c'est quelqu'un qui met sa caméra au service de l'histoire. Le récit, ici, s'écrit entre deux individus. Pour capturer l'émotion, Sorogoyen utilise des champs contre champs avec une puissance que j'ai rarement vue au cinéma, notamment dans la première scène, hein, du restaurant, pleine de tension qui balade le spectateur d'un visage à l'autre pendant 20 minutes, sans vraiment qu'il puisse prendre en compte l'entièreté des enjeux. C'est cette volonté de creuser à l'intérieur du cœur des personnages qui fait la force de l'être aimé. Le film contient aussi plusieurs couches, hein, pour densifier l'histoire. Les scènes de tournage, les scènes hors tournage, le présent, le passé, tout se mélange avec adresse. Sorogoyen est un metteur en scène assez génial, hein. Il s'offre à chaque fois des grandes scènes, on en compte beaucoup dans l'être aimé. Celle du restaurant au début, celle de la cafétéria, ensuite celle du dîner, celle de l'attente et la scène finale lors du montage du film. C'est grandiose, hyper puissant à tous les instants. Et ça, c'est grâce à des performances d'acteurs assez notables, hein. Notamment pour Javier Bardem, qui est énorme en Esteban Martinez. Il est à la fois un tyran et un être qui a de la tendresse. Il est la bête et le père, il est une dualité à lui tout seul. C'est un homme qui connaît ses torts mais qui ne les assume pas par ego ou par peur. Une figure finalement assez banale dans notre monde. L'homme qui a réussi, le génie artistique qui sait mieux que tout le monde. Il est capable de passer des moments d'amitié sincères avec les membres de son équipe avant de les menacer physiquement. L'humain qui est en lui s'est fait diluer par sa passion artistique. Alors face à ce Bardem qui aurait dû avoir d'ailleurs le prix d'interprétation masculine à Cannes, on retrouve Olivia Luengo, aussi que l'on retrouve dans le plus nettement nombriliste autofiction d'Almodovar. Elle tient le coup dans le film, cherche constamment l'émancipation, mais aussi la reconnaissance de la cruauté passée, fille de réalisateur et d'actrice. Sorogoyen s'intéresse finalement assez peu à son talent, qui pour lui est évident, lié sans aucun doute au milieu dans lequel elle a grandi. Passage subtil sur le népotisme pour mieux embrasser le drame familial qui se dessine petit à petit au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue. On commence proche des personnages, on finit loin avec le décor comme outil de compréhension des enjeux. C'est un film absolument à aller voir en salle qui n'a pour l'instant pas dépassé les 100 000 entrées en France. C'est à mes yeux la meilleure sortie de 2026, assurément, si l'on ne compte pas les sorties tardives de Cannes 2025 comme Les Échos du passé de Masha Chelinsky. Un metteur en scène de ce niveau, ça donne le vertige, un peu à l'opposé du film dont je vais vous parler maintenant, qui se nomme pourtant ainsi.
Bruno.
Oui. Quoi ?
Ça va te paraître complètement farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance.
Ok.
J'ai la certitude absolue que le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel.
Ok, t'as pris des champignons ?
Quentin Dupieux sort d'un Cannes productif, mais finalement peu réussi. Son long métrage Full Fill, présenté en séance de minuit, semble n'avoir conquis personne. Mais alors, qu'en est-il de son beaucoup plus attendu Le Vertige, sorti aujourd'hui, que j'ai vu lors de sa première projection à la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes il y a 3 semaines et à 8 heures. Il faut de la motivation. Le film part d'un speech assez simple, hein, l'histoire de Jacques, un banquier qui se rend chez Bruno, son ami musicien, pour lui annoncer que l'humanité vit dans une simulation. S'enchaîne alors une série de blagues sur cette supposée simulation, puis une enquête, puis une sorte de mini plot twist, puis c'est la fin. Si le scénario peut paraître assez simple de premier abord, c'est que le film, comme tous ceux que Dupieux réalise, repose sur un concept. Ici, c'est l'animation avec une esthétique PS1, Vice City, qu'il expliquait au micro de Brut.
J'ai fait le film avec 5 personnes, donc des jeunes mecs fraîchement diplômés d'une école. C'est complètement de l'artisanat, c'est fait à la main. C'est-à-dire qu'on a découvert comment on fabriquait ce truc-là en même temps qu'on le faisait. C'est pour ça que quand on me proposait 2 mois de test avant de faire le film, je trouvais ça ridicule. Moi, je voulais justement découvrir, comme un mec qui se dit « j'ai envie de dessiner », ben, je vais commencer à dessiner. En fait, je voulais vivre tout ce truc de découverte avec eux.
C'est le premier film d'animation de Quentin Dupieux et comme pour la plupart de ses films, un court-métrage aurait peut-être été plus intéressant. L'humour fonctionne, globalement il passe un petit peu par l'absurde mais ne va pas assez loin à mon goût. On reste vraiment sur un classicisme au niveau des blagues de jeux vidéo, celle de la naissance du bébé est par contre assez marrant, j'avoue. Mais c'est une des rares à sortir du lot. D'ailleurs, la salle riait au début à Cannes avant de s'endormir. J'adore par contre le personnage d'Anaïs de Moustier, très drôle, très cru, avec ce running gag de l'argent qui fonctionne et qui joue un vrai rôle dans le questionnement qui naît de l'intérêt purement personnel de savoir si oui ou non on vit dans une réalité. Le mari, hein, qui est joué par Jonathan Cohen, est en train de comprendre grâce au personnage d'Alain Chabat qu'il vit dans cette simulation, mais en même temps à quoi cela lui sert. Il vient d'être papa, sa femme l'appelle car elle a besoin de son aide avec le bébé, sa vie de famille vient de commencer en somme. Mais encore une fois, le film ne questionne pas tellement ce rapport au monde, il n'est donc qu'un entre-deux bloqué entre l'humour absurde qu'il aurait pu avoir et la pensée un petit peu philosophique qu'il aurait pu développer sans piocher dans ces deux opposés pour se constituer. Pour l'instant, j'ai parlé du fond et pas de la forme, tout simplement car hormis cette esthétique PS1, il n'y a rien, beaucoup de champ contre champ, ce qui est marrant, hein, après avoir parlé de l'être aimé qui en est rempli également. Pour cette valeur de plan, Sorogoyen fait figure d'exception, c'est l'académisme. Souvent, cela ne sert à raconter pas grand-chose, en fait, avec la forme cinématographique la plus classique possible. C'est donc très dur de les rythmer. Ils peuvent favoriser l'immersion, à condition de bien les utiliser. Du côté de Dupieux, c'est le juste milieu entre ces deux parties. Le film n'a aucune grande envolée visuelle et très explicatif. Et comme rien n'a été joué physiquement par les acteurs, il fonctionnerait aussi très bien en podcast. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein, pour un médium qui est censé mêler et le son et l'image. Alors pour moi, ça reste un film à voir pour passer un petit moment sympa au cinéma et aux 400 coups de préférence. Cela vous évitera d'aller voir des purges comme Colonie et de payer la somme très sociale de 15,90€.
Oh là ! Ah merde ! Oh là là, ça y est, je perds les os.
T'es sûr ?
Bah, tu vois bien. Ah, c'est une fille en plus !
Attends, ça y est, on est parents, là ? Là, t'as rien vu de bizarre ?
Bah, c'est pas bizarre, elle a accouché, quoi, c'est la nature.
Tu captes pas le concept de simulation, je vois bien.
Non, mais si, bien sûr que si, que je capte, ça va, oh, c'est bon, hein, tout est réel, je suis pas débile.
Non, rien n'est réel.
Eh bah, merci pour ces spoils, vu que je comptais aller le voir demain.
D'en mettre un minimum.
Ouais, ouais, non, c'est pas grave, je comptais aller le voir demain, mais y a pas de souci. Et je suis allée voir aussi Colonie au cinéma. Hein,
aimé ou pas? Moi, je trouve ça vraiment, c'est très compliqué hein, comme film.
C'est, ça se regarde, mais voilà, sans plus. Mais bon, on va pouvoir en débattre peut-être hors antenne ou à l'antenne, c'est comme on veut, parce que tout de suite, on va pouvoir débattre avec Marie, Simon et Colin, tout autour de nous, et Mathéo, du coup, tu y es convié aussi. Est-ce que, du coup, quelqu'un veut commencer ? Peut-être Marie, as-tu une question à nous proposer, un débat à lancer ?
Eh bien, on va commencer un peu dans le lien toujours avec l'art, etc., avec les jeux vidéo. Est-ce que, justement, ceux-ci peuvent être considérés comme de l'art ? Je vous laisse avec la question, à vous de débattre, et ensuite je vous donnerai un petit peu de contexte après, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, par exemple, bah, Mathéo, qu'est-ce que t'en penses justement du jeu vidéo ? Est-ce que pour toi, ça peut être considéré comme de l'art ? Est-ce que tu joues déjà aux jeux vidéo ?
Oui, bon, comme tout le monde, je pense que ouais, j'ai pas mal joué aux jeux vidéo. Après, moi je considérerais pas ça comme de l'art, parce que justement, c'est un médium qui va piocher dans différents courants artistiques. Et en fait, un courant artistique a ses codes propres. Or, le jeu vidéo est rapporté à plein de codes, hein, ceux du cinéma, de la musique, voilà, il y a plein de choses, même de la peinture, hein, très souvent aussi. Donc on a déjà ça, et on a aussi le fait que, normalement, une œuvre d'art est plus ou moins figée. Une œuvre d'art, elle est C'est-à-dire que c'est pas la personne qui regarde l'œuvre d'art qui va jouer avec, en fait. C'est pas participatif, une œuvre d'art. Ce qui fait que du coup, non, pour moi, le jeu vidéo n'est pas une œuvre d'art, mais par contre, c'est tout aussi noble qu'un travail artistique. Enfin, c'est pas du tout dénigrer ceux qui effectivement travaillent dans le milieu du jeu vidéo.
D'accord. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je te rejoins sur ce point-là, Mathéo. Pour moi, les jeux vidéo, c'est pas je considère pas ça comme de l'art. Après, c'est sûr que avec les avancées technologiques, maintenant, on arrive à faire des jeux vidéo très poussés, très beaux aussi visuellement, qui demandent parfois des heures et des heures de jeu pour les finir. Donc des choses très complexes et franchement qui méritent tout le respect. Mais après, avec les explications de Mathéo, je pense qu'il a dit le gros de cette partie. Mais on reste quand même, on adore quand même les jeux vidéo, même si c'est pas considéré comme de l'art. Enfin, pour moi.
Moi, je pense que ça dépend des jeux vidéo. Parce qu'il y a des jeux vidéo, ils sont faits exprès juste pour le visuel. L'histoire peut être à chier, hein, mais au moins, on a une expérience visuelle qui est là, qui est présente, immersive, qui peut justement, des fois, nous procurer des émotions. Mais je connais des jeux, comme par exemple, je sais pas, Split Fiction ou des trucs comme ça, mais le visuel est incroyable. Les histoires sont liées vraiment au décor dans lequel on vit. Et je pense que ça dépend vraiment des jeux vidéo, parce qu'il y a du Fortnite, tout ça, on s'en fout complet, l'art, les persos qui vont y être, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à que ça soit que ça rentre dans l'art, mais certains jeux peuvent rentrer dans cette catégorie, selon moi.
Et toi, Colin ?
Moi, je suis plutôt d'accord avec les gars sur le fait que c'est vrai que ça pioche dans des objets artistiques, donc c'est peut-être pas un art en lui-même. Après, c'est vrai que ça empêche pas du tout, ça enlève pas le fait que ce soit des objets culturels très important et qui marque des générations comme la nôtre. Donc ça reste des marqueurs culturels très forts, après sans pour autant peut-être être qualifié d'art, même si encore je saurais peut-être pas forcément définir la notion d'art en elle-même. Du coup sur ta question de base, je sais pas, mais oui, des objets en tout cas culturels et des marqueurs pour des générations
Eh ben, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, tout vous avis, moi j'adore, c'est hyper varié, etc. Personnellement, moi je rejoins plus le côté de Sidonie. Après, c'est toujours, ça a toujours été un vrai débat, un vrai débat. En tout cas, ça se pose de plus en plus aussi, notamment du coup avec l'évolution des graphismes. On peut voir qu'il y a des graphismes, par exemple Elden Ring. Alors j'y ai pas joué, mais j'ai vu des gens y jouer et en fait les graphismes. En fait, on a l'impression de regarder un film avec les cinématiques qui sont absolument incroyables, etc. Enfin, tout l'aspect esthétique, en tout cas, est extrêmement bien travaillé. Après, il y a aussi la qualité de l'histoire qui est assez importante aussi. Enfin, ça dépend les jeux, mais il y en a aussi qui font réfléchir, un peu comme les œuvres. J'ai envie de dire aussi, certaines œuvres nous font réfléchir. Je pense à Little Nightmares aussi, qui est superbe, mais aussi qui fait réfléchir sur notre société, etc., actuelle. Donc en fait, ce qui est bien avec ce débat, justement, les jeux vidéo doivent-ils être considérés comme de l'art? En fait, c'est que déjà, il y a des avis divergents, et ça, c'est vachement bien. Et même sans parler de ça, on a tellement de jeux vidéo, en fait, tellement de styles disponibles dans les open world. On a au pire ceux où vraiment on est très dirigé, etc. Enfin, c'est vachement cool. Et en fait, c'est une vraie question. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment, en fait, chacun le pense comme il le veut. Il y a des expositions parfois qui se font justement avec l'art et le jeu vidéo. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut continuer à débattre.
Ah, merci beaucoup Marie pour ce moment jeu vidéo. Et on va plutôt aller vers quelque chose d'autre, je pense, avec Simon. Peut-être sa catégorie personnelle, un truc qu'il aime bien peut-être.
C'est ça, moi je vais un petit peu changer par rapport à Marie. Où là je pense que mon débat pour le coup va donner des réponses unanimes. Puisque jeudi soir j'étais à Nantes, donc du côté du stade de la Beaujoire, pour voir l'équipe de France de football jouer. Et donc pour ceux qui étaient l'un de leurs derniers matchs de préparation avant de s'envoler aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Donc à la veille du lancement de la compétition, l'organisation de cette édition a fait encore débat, puisque cette année le format il est un petit peu spécial, avec plus d'équipes et surtout car la compétition se déroule dans 3 pays différents, aux États-Unis donc, mais aussi au Mexique et au Canada. Donc ce format est beaucoup critiqué car des équipes ainsi que leurs supporters devront faire de longs déplacements entre 2 matchs. Donc j'ai un exemple en tête, hein, c'est le cas du Canada qui jouera son premier match face à la Bosnie à Toronto avant de se déplacer jusqu'à Vancouver pour leur deuxième match. Donc un trajet qui représente plus de 4200 km, ça équivaut à 4h30 d'avion, 40 heures de voiture et même 97 heures de train. Et donc ça m'amène à ma question. Pour vous, doit-on arrêter d'organiser la Coupe du Monde et même de manière générale les événements sportifs dans plusieurs pays au niveau écologique et économique? Je me tourne peut-être vers toi, Colin.
Oui, bah c'est vrai que là, on risque peut-être d'être un peu tous d'accord, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, mais comme la précédente au Qatar, enfin, qui sont juste des désastres écologiques totaux. Après, et puis là, surtout le problème de ces trois pays, c'est que c'est pas trois petits pays. Le problème qui se pose dans ce cas-là, c'est que voilà, c'est pas, on n'est pas sur trois pays en Europe, on est quand même sur trois immenses pays, dont les États-Unis, qui forcément. Ça amène des trajets extrêmement longs et puis après voilà il y aura aussi un autre problème écologique qui sera la chaleur parce que à cette période-là de l'année aux États-Unis c'est des températures absolument énormes du coup il y a ça aussi comme problème.
Est-ce que Marie tu veux peut-être rebondir?
Alors personnellement je suis pas très très foot mais même quand j'ai entendu parler de ça etc de la Coupe du Monde qui a été déroulée dans trois pays différents enfin je trouve que c'est pas, enfin c'est je trouve que c'est une énorme blague en fait. Enfin en plus comme a dit Colin, c'est trois gros pays, enfin c'est assez énorme. Enfin les États-Unis sont un assez grand pays, je me dis pourquoi pas dans un seul et même pays, bah par exemple imaginons les États-Unis. Enfin voilà, moi j'ai du mal à comprendre l'aspect, enfin pourquoi ils font ça. Enfin j'ai du mal à comprendre et moi je sais que ils devraient pas refaire ça justement, et même aussi sans parler de ça, l'aspect économique, par exemple les gens qui veulent assister, bah par exemple à tous les matchs, etc. Oh bah la vache, le prix, l'avion, la voiture, je sais pas, enfin bref, et ça plus le prix des billets, c'est pas possible, c'est pas accessible pour tout le monde, enfin oui, enfin c'est pas à refaire quoi.
Ouais, c'est sûr que c'est un sacré budget. Qu'est-ce que t'en penses toi, Mathéo?
Bah effectivement, moi je trouve cette Coupe du Monde là, c'est une catastrophe sur tous les points. Effectivement, il y a le point écologique déjà. C'est assez marrant aussi par rapport à ce qu'avait dit Wembanyama il y a pas longtemps sur le fait que justement lui en tant que joueur de NBA, il avait un peu le seum de faire tout le temps des déplacements en avion pour aller d'un point A à un point B toutes les semaines, etc. Dans tous les cas, le milieu du foot a toujours fonctionné en avion, même en France. Ça fait quand même pas mal scandale. Et puis je me rappelle, on a vu cette sortie aussi de Christophe Galtier sur le char à voile. Voilà, qui était en rapport avec ça. Donc, il y a une déconnexion par rapport aux moyens de transport, je pense, dans le foot. Et puis, au-delà de ça, effectivement, si on sort de l'aspect écologique, il y a l'aspect politique aussi qui pose question, avec les États-Unis de Trump, avec aussi ce qui se passe au Mexique, quand même. Pas politiquement parlant, mais plutôt par rapport à la guerre du trafic de drogue. Donc il y a quand même ça aussi. Si on parle des États-Unis aussi, il y a quand même aussi des peuples, des populations qui ne peuvent pas tout simplement se rendre aux États-Unis ou qui doivent payer des droits de visa super chers. Je pense à voilà, on a joué contre la Côte d'Ivoire, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est le cas aussi avec Haïti.
Ouais. L'Iran aussi.
L'Iran qui pourra même pas venir en plus, je crois aussi.
Si l'équipe viendra, mais bah du coup les supporters.
Voilà, qui seront pas là.
Ouais.
Donc non, c'est quand même une Coupe du Monde où en gros on l'a agrandi pour essayer de dire voilà, enfin en fait c'est un rapport économique hein, de base,
oui,
mais pour dire ah ben regardez, on accepte plus de monde et tout, c'est très très cool, et au final en fait les supporters viennent même pas. Donc c'est quand même moi je trouve que c'est une Coupe du Monde qui laisse ses torts visibles, beaucoup trop visibles, ce qui est super bien pour pouvoir en débattre et pour pouvoir sensibiliser, mais qui du coup en est rempli et oui, c'est une honte à tous les étages, ouais, je trouve. Effectivement.
Et puis pour rebondir aussi sur ce que disait Mathéo sur le côté politique, non seulement il y a le côté oui sécurité au Mexique, mais aussi du fait de la domination des États-Unis, ça a invisibilisé totalement le Mexique et le Canada.
Oui, c'est vrai. Ouais,
c'est vraiment la Coupe du Monde aux États-Unis, et même en termes de matchs et de, enfin il y a beaucoup moins de matchs au Canada par exemple. Ils sont dans l'organisation de la Coupe du Monde, mais en fait c'est quand même, enfin il y a énormément les États-Unis, et du coup ça se pose ce problème là aussi, c'est qu'on partage la Coupe du Monde pour des raisons économiques parce que maintenant ça coûte très cher d'organiser une Coupe du Monde, du coup on la partage, mais bah dans les faits pour moi ça restera la Coupe du Monde aux États-Unis quoi.
Oui, carrément. Et puis si on prend en compte encore une fois pour rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure Colin sur l'aspect géographique de la chose, en fait c'est une Coupe du Monde sur un continent.
Oui.
Enfin, je sais pas si on se rend compte, genre c'est ouais, comme non, si oui, toute l'Europe, et encore toute l'Europe c'est plus petit que le continent là. Genre c'est fou en vrai.
C'est ça. Et même tu parlais aussi des, parce que les États-Unis c'est un pays qui est énorme en termes de superficie. Et du coup, même si la Coupe du Monde s'était déroulée que aux États-Unis, il y a un exemple quand même qui est aussi frappant, c'est le Portugal qui va jouer ses deux premiers matchs à Houston et le troisième qui va jouer à Miami. Voilà, encore une fois, ça représente 2h40 d'avion pour un trajet de plus de 1500 km. Donc voilà, je sais pas si c'est quand même. Enfin, c'est, moi, je trouve que l'organisation aurait dû se concentrer peut-être sur une partie des États-Unis.
Et oui, pas, et puis
faire tout le voyage.
Et puis voilà, comme sur le côté continent, enfin, il y a du décalage horaire au sein des États-Unis. Donc rien que là, pour le pour que ce soit sportif, supporter et tout, c'est vraiment. Enfin,
pour la santé des joueurs.
Il y a rien de moins optimal, je trouve.
Complètement. Ouais, puis c'est complètement une Coupe du Monde touristique aussi. Hein. Enfin, effectivement, quand on voit les prix, ça, à ce niveau-là, genre, c'est vraiment l'argent. Ouais, il y a même peut-être plus la notion du sport, donc on verra ce qui se passera là-bas. Mais
si, Denis, un petit mot pour la fin.
Bah, comment dire, déjà, je suis totalement d'accord avec vous. Je veux dire, c'est la pire organisation possible. Ils auraient pu tellement, genre, je sais pas, le sport, c'est censé rassembler les gens. Faut des, je sais pas, même si on vient tous de pays différents, justement, c'est pour montrer qu'on peut, pendant un moment, être ensemble sans problème. Mais là, du coup, ça va en créer beaucoup trop de problèmes, que ce soit écologique, politique. Mais du coup, je suis d'accord avec vous tous. Si je devais juste trouver un point positif à ça, que ça se déroule justement au Mexique, aux États-Unis et au Canada, c'est culturellement, on va avoir justement trois pays différents qui vont nous proposer des choses différentes. Peut-être dans la façon de parler, de faire un peu de communication sur leur pays. Bah, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve quand même qu'il y a un petit truc intéressant parmi 1000 problèmes proposés pendant cette coupe.
Après, ça va rester encore très américanisé, mais
malheureusement, ouais. C'est vrai.
Bah, le Mexique pourrait amener un petit peu de nuance. Ouais. Je pense que c'est une culture un petit peu différente. Mais je pense que États-Unis, Canada, c'est très similaire. Le Mexique, tu passes un peu Amérique centrale, Amérique du Sud. Il peut y avoir un peu peut-être des cultures un peu différentes qui seront intéressantes à observer, mais encore faut-il qu'on s'y intéresse. C'est pas que aux États-Unis. Quoi.
C'est ça. Et puis peut-être que même pour des populations un peu plus locales, il y aura effectivement des temps culturels adaptés, ou j'en sais rien, ou des moments justement médiatiquement.
On espère, ouais, parce que
ouais, ce serait quand même.
C'est ça.
Bah merci beaucoup Simon pour cette question. Je vais lancer une petite question comme ça aussi. Je vais pas donner trop d'arguments. Peut-être à la fin on verra. Mais est-ce que pour vous les influenceurs ont trop de pouvoir et est-ce qu'ils l'utilisent bien? Est-ce que par exemple, je sais pour les jeunes, vu que c'est surtout eux qui regardent beaucoup, que ça soit les réseaux YouTube, Twitch, tout ça, est-ce que les influenceurs ont trop de pouvoir, trop de force, on va dire? On peut commencer peut-être par Mathéo, je sais pas.
En vrai, c'est une grosse question. C'est une question super dense. Bah effectivement, aujourd'hui ils ont une grosse puissance de frappe, énorme puissance de frappe les influenceurs. Je sais pas si on devrait leur enlever du pouvoir. Je pense qu'on devrait plus éduquer aux réseaux sociaux et très tôt. Je pense que c'est surtout ça, faire de la médiation justement sur sur le rôle de ces personnes-là. Et après effectivement, aujourd'hui moi je trouve que les influenceurs jouent pas si bien que ça leur rôle d'influenceurs. Après, franchement, c'est une critique qu'on aurait pu faire aussi aux médias à l'époque, journaux papier, les journalistes d'hier aussi, les journalistes d'aujourd'hui. Et voilà, c'est que les gens ont toujours du mal à se positionner aussi parce que ils existent dans un paysage et qu'ils ont peur de disparaître si jamais ils sont trop critiques. Effectivement, à ce niveau-là, oui, les influenceurs font, je trouve, pas assez. Et moi, je dirais même que il y en a beaucoup qui sont dangereux aussi. Enfin, le rôle de l'influence, mais comme plein de choses. Enfin, je veux dire, en vrai, je sais pas si vraiment il y a une expansion de plein d'idées horribles. Je pense qu'il y a quand même un lien de causalité, mais est-ce que ça existait pas avant aussi? Voilà. En vrai, j'en sais rien. C'est une question qui est hyper dense.
C'est une grosse question, mais oui, comme tu dis. Peut-être qu'il y a des mauvais côtés, mais les médias traditionnels le font aussi malgré tout. Ils influencent aussi les gens. C'est pas les seuls à le faire. Mais du coup, est-ce que Marie, t'as quelque chose à dire sur cette question?
Après, moi, je suis quelqu'un de très influençable. Je tiens à le dire, parfois, quand je vois des trucs qui sont faciles à faire, etc., genre des petits tutos, des trucs comme ça, je suis la première à le faire. Voilà. Mais dans un sens, j'ai envie de dire, en effet, les influenceurs, ils ont énormément de pouvoir. Alors, ça peut être une bonne chose d'un bon côté, par exemple le body positive, ce genre de choses, etc. Ça, c'est super cool. L'inclusion des gens, etc., l'égalité homme-femme, enfin, tout ce genre de choses, c'est super bien. Mais par exemple, on peut retrouver des contenus extrêmes, entre guillemets. Je pense, alors, je sais plus exactement son nom, mais je sais qu'il est très connu, notamment sur TikTok. C'est un TikToker masculiniste. J'ai plus exactement son nom, mais il a des discours mais absolument affreux, et quand en fait on se dit bah il y a des gamins qui regardent ça.
Oui, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit, notamment sur le fait que faut une éducation aussi des publics, comme tu le disais Mathéo, faut éduquer à ce qu'on voit sur les réseaux. Mais pour moi, je pense qu'il faut aussi des règles au niveau des influenceurs. Enfin, je pense qu'on se rend pas encore assez compte en fait du pouvoir et de l'influence, c'est le cas de le dire, qu'ils ont et qu'ils peuvent avoir. Enfin, là par exemple, on est à un an des présidentielles. Je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se faire leur avis avec ce qu'ils voient sur les réseaux, et ça peut être bien, mais ça peut quand même être surtout un danger. Donc je pense que ouais, faudrait à la fois, pour moi, faudrait plus légiférer et puis légiférer, ouais, la, tout en restant dans la liberté d'expression bien sûr, mais la parole des influenceurs, et puis faudrait beaucoup plus cadrer cette pratique qu'elle n'est actuellement, je pense, parce que je pense qu'on se rend vraiment pas compte à quel point des jeunes ou même des moins jeunes, mais enfin ouais, se basent sur ça.
C'est vrai qu'ils font un peu leur vie autour de ça. Si quelqu'un, il les adore, il les suit tous les jours, bah au bout d'un moment, tu t'attaches à cette personne et t'écoutes vraiment tout ce qu'elle dit, comme si c'était un membre de ta famille ou un ami. Donc c'est vrai que ça devient assez vite dangereux. Marie, t'avais peut-être quelque chose à dire?
Bah, je pense par exemple à une autre influenceuse qui, elle a été pas boycottée, mais en gros, elle a été très rapidement critiquée, c'est Ophénia, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, c'était une elle est toujours d'ailleurs, c'est une influenceuse qui avait créé vraiment un lien de confiance avec ses followers qui étaient surtout très jeunes. Vraiment, on avait vraiment du parasocial et c'était hyper dangereux parce qu'il y avait beaucoup d'accusations autour d'elle. Alors, je me souviens plus de tout exactement, mais elle avait créé une application pour faire des rencontres, etc. Et en fait, on se rendait compte que cette application était absolument pas, on va dire, réglementée, et qu'en gros, bah, les adultes, bah, ceux qui avaient des tendances, voilà, pas très cool, pouvaient être en lien justement avec des enfants, etc. Et vraiment, en fait, c'était pas du tout réglementé. Et elle se dit, bon, non, et tout, c'est pas grave. Pareil, elle défendait le harcèlement, sauf qu'au final, il y avait des accusations autour d'elle qui disaient qu'elle harcelait justement derrière. Et en fait, avec cette relation parasociale, en fait, enfin, c'était, il y a vraiment un côté malsain aussi, et ça aussi, c'est pas du tout, on va dire, régulé, enfin, et c'est, et en effet, encore une fois, je trouve ça effrayant, quoi, enfin.
Ah, c'était de la, dans son cas, elle, c'était, ouais, c'était vraiment de la manipulation, enfin, il y a des jeunes, des plutôt, ouais, des jeunes fans, j'ai du mal avec ce mot, parce que, fans d'une personne comme ça, bon, bah voilà, mais c'était vraiment des jeunes fans qui la rendaient totalement hystérique, et c'est vrai que ça, c'est, bah, une dérive, c'est fou, en vrai, quand même.
Et ton exemple, justement, avec l'application, c'est parce qu'elle est connue qu'on l'aime bien qu'ils vont vers ça. Comme par exemple, je sais pas, le Ciao Kombucha. Il y en a plein, excusez-moi, mais jamais personne n'aurait pensé à boire du kombucha. Et vu que c'est Squeezie qui le propose, bah, tout le monde va en acheter. Là, il y a le Ciao Energy qui vient de sortir. Il y a plein de choses comme ça. Les chips Brosti, là aussi.
Ouais.
Ok, c'est sympa à goûter, tout ça. Mais, je veux dire, ça aurait été quelqu'un d'autre, je sais pas, dans la région, qui aurait lancé quelque chose. Bah, on n'y serait peut-être pas allé, vu qu'il a une petite influence. Il y a aussi un pouvoir comme ça, qui fait qu'ils ont ils influencent le comportement de consommation qu'on a, nous, que ça soit dans la nourriture ou dans plein d'autres choses. Est-ce que Simon, t'as quelque chose à...
Bah moi, je rejoins l'avis de toutes les personnes autour de cette table. C'est clair qu'il faut une éducation pour les réseaux sociaux et que sur certains sujets, il y a des personnes qui ont des idées et qui ont des paroles chocs et insensées. Mais après, je trouve quand même que sur certains événements, parce que maintenant les influenceurs, tu les vois partout. Voilà, tu as dû en voir pas mal au Festival de Cannes, Mathéo.
Oui, ouais, j'en ai croisé un peu. Ouais.
Ça redonne peut-être un, parce que du coup, bah, la population qui suivent ces influenceurs, c'est principalement public jeune. Donc ça redonne peut-être un attrait à certains événements aussi qui ont perdu et qui ont toujours un public, mais un public vieillissant. Ça a aussi un petit côté positif. Après, voilà, je vous rejoins sur le reste qui ont des fous, on a des paroles et des actes insensés.
Mais comme tu dis, il y a toujours du positif, parce qu'il y a certains créateurs qui sensibilisent à des causes importantes quand même, qui, on va dire, motivent les gens aussi à faire de bonnes choses. En fait, ça dépend vraiment de qui on va suivre, nos intérêts. Et oui, en fait, c'est vraiment l'éducation à médias qui va vraiment tout donner. Parce que les influenceurs, ok, ils jouent leur rôle, hop, ils font leur business, tout ça. Mais c'est surtout à nous, public et spectateurs, de contrôler ce qu'on doit regarder, ce qu'on doit suivre ou pas. Voilà, si vous avez d'autres trucs à dire, Mathéo, peut-être.
Bah, moi, je pense qu'il y a un truc quand même qui est à prendre en compte par rapport aux réseaux sociaux, c'est aussi les gens qui sont derrière, à qui ça sert, à quoi ça sert, etc. Je pense que les réseaux sociaux, en tant que tels, c'est un peu la version genre immoralement libérée de la télévision, où il y avait quand même des cadres, où ça s'inscrivait dans une influence aussi de... Enfin, c'est lié à tout un tas de choses. Je pense que la plupart des dérives qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux sont toujours liées plus ou moins à l'argent, par exemple. Donc c'est un truc à prendre en compte aussi. Ça permet aussi massivement de contrôler des populations. Aujourd'hui, c'est à inscrire dans le cadre global de ce qu'est Internet, qui est une version ultra-libérale, qui est quelque chose qui, effectivement, donne lieu à toutes les libertés. et donc à toutes les dérives parce que effectivement il y a un rôle d'influence qui est énorme sur des publics moins informés, parfois un peu plus crédules, même si moi j'aime pas dire ça, je pense que c'est plutôt un lien à la formation qui voilà s'explique par tout un tas de choses, mais je pense que voilà c'est à inscrire dans un cadre plus large. Et effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, enfin, on va arriver, tout à l'heure, on parlait des présidentielles, on va arriver aux présidentielles avec un influenceur qui est favori des sondages aujourd'hui, en fait, en tant que tel. Donc, c'est quand même assez important pour le considérer. Et voilà, et donc, effectivement, le rôle d'Internet aujourd'hui, il est énorme, et les personnes qui sont derrière ces plateformes sont, à mes yeux, au moins aussi coupables que les influenceurs eux-mêmes, parce que c'est tout un système.
Et oui, et puis peut-être pour finir pour une note un peu plus positive, c'est vrai que là on parle d'éducation aux médias et aux réseaux, et peut-être que si cette éducation marche de plus en plus, on pourra peut-être voir l'émergence de d'influenceurs ou d'une génération de plus en plus avertie, et du coup peut-être plus éthique, que ce soit du côté des influenceurs ou même en face, des gens qui les regardent. Et du coup peut-être que voilà, ça peut être un point positif dans les années à venir, ça se trouve, on sera beaucoup plus avertis, moins crédules, et même les influenceurs plus peut-être plus éthiques d'eux-mêmes.
On verra. Moi, je pense que ça dépend quand même vachement des
réglementations. Bien sûr, non, mais ça, c'est sûr, oui.
Et du coup, ça dépend encore une fois des gens qu'il y a derrière aussi, qui va faire les réglementations, les politiques, etc.
Oui, voilà, tant que ça bougera pas au niveau des réglementations, dans tous les cas.
Je pense qu'il y a de ça. Après, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir des gens plus éthiques, mais quand on regarde aujourd'hui les grandes stars des réseaux sociaux, enfin, on parlait de masculinisme, Thibaut InShape, c'est le mec le plus suivi de France. Voilà, lui, il prône quand même un certain masculinisme qui est assez dangereux, patriotisme aussi qui est dangereux. Il fait des vidéos avec le GIGN.
Ouais, ça, bah, il essaye de rester neutre au maximum, mais on voit que, enfin, si
il y a un petit penchant quand même.
Ouais, on voit que c'est ici. Ouais, on voit que s'il dévie juste un peu, ça peut, enfin, ça prend des proportions folles parce que c'est avec lui pour le coup.
Bah, c'est ça.
Il y a une force de frappe qui est monstrueuse.
Ouais. Après, moi, ce que je trouve bien, c'est que bah du coup, il va y avoir. Enfin, il y avait en tout cas l'idée d'une loi qui interdisait au moins de 16 ans, je crois.
Au moins de 16 ans les réseaux.
Au moins de 16 ans les réseaux. Et moi, je trouve qu'en soi, ça c'est pas mal parce qu'en fait, avant, on est. Ouais, mais au moins, enfin, comment dire. Au moins, on va dire le pouvoir des influenceurs entre guillemets, ceux qui l'utilisent de manière négative, en fait, pourront peut-être moins toucher les personnes les plus, on va dire, influençables, etc. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'en soi, l'idée, elle est pas mauvaise en soi. Après, c'est la mise en place, etc. Parce que, alors, va savoir comment, à chaque fois, en tout cas, moi, je sais que mes petits frères, c'est toujours ça, ils trouvaient toujours le moyen de passer à côté de la, comment dire, d'une réglementation, d'un truc du genre. Allez savoir comment. Donc, je sais pas comment ils ont prévu de mettre ça en place, mais après, ce qui est bien, c'est que si cette réglementation se met en place, bah, au moins, peut-être qu'on pourra réduire les dégâts que font les réseaux sociaux aussi sur les jeunes. Je pense notamment aussi, par exemple, à l'image du corps, etc. Enfin, voilà, ce genre de choses. Enfin, voilà, ça peut être limité au max.
Okay. Non, si, si.
Ouais, sur ce que tu dis, Marie, c'est, je crois, c'est, faut s'inspirer aussi de l'Australie. Ouais. Je crois qu'il y a eu une loi qui a été mise en place pour les réseaux sociaux interdits au moins de 15 ans ou 16 ans. Ouais. Voilà, peut-être s'inspirer à voir comment ça marche là-bas chez eux déjà, voir si ça fonctionne, s'il y a des points positifs. Et puis peut-être s'en inspirer et mettre en place cette loi qui pourrait vraiment être significative.
Bah, pour en avoir, j'ai bossé dessus justement avec un ancien stagiaire, Loris, sur cette loi. On a pu interviewer des psychologues, des élèves et tout. Sauf que si on la met en marche, le seul moyen de prouver qu'on a plus de 16 ans ou moins de 16 ans, tout ça, c'est avec une carte d'identité ou avec un accord parental ou même comme les applications de X. Ça serait juste mettre notre tête et ils vont nous dire si on a plus de 16 ans ou moins de 16 ans. Donc, comment dire que ça peut être pas mal tourné. Après, je trouve que les restrictions sont pas assez bien mises. Mais l'idée, par contre, est vraiment bien. Ça a marché dans d'autres pays, ça c'est sûr. Mais est-ce que la France va bien réussir à le mettre en place? Ça, c'est une autre histoire.
Oui. Bah ouais, dans tous les cas, enfin, je veux dire, bloquer les choses purement et simplement, c'est prouver que ça fonctionne pas forcément véritablement. Ce qu'il faut, c'est faire de la médiation, etc. Mais j'aimerais finir sur un dernier truc par rapport à ce truc-là de réseaux sociaux pour les moins de 16 ans interdits. C'est que c'est intéressant effectivement au niveau de la pensée. Parce que tu supprimes plein de concepts qui dégoulinent d'horreur qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais en même temps c'est intéressant aussi par rapport au mode de consommation de la vie en global, parce que on avait vu justement nous en cours un mec qui s'appelle Hermout Rosa, qui a fait un bouquin sur l'accélération. Et en fait, voilà, l'accélération de la vie tout le temps, tout le temps. Et donc, on va calquer, si on consomme énormément par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au contenu qu'on va, voilà, swipe, et consommer énormément d'informations à la minute, on va rapporter, en fait, ce mode de consommation-là d'informations à tout ce qu'on va faire, en fait, dans la vie. Et donc, on va chercher à, voilà, la rapidité, tout le temps la rapidité, sans prendre le temps de bien faire les choses, de bien apprendre, de bien considérer, de, voilà. Et donc, effectivement, c'est primordial que les choses ne se passent pas comme ça quand on est enfant, quand on est adolescent, parce que c'est là où on se forme en tant qu'adulte. Et voilà, enfin, être un adulte qui a une, enfin voilà, une pile électrique en constant, c'est quand même questionnable. Donc effectivement, moi je trouve qu'en termes de mode de consommation de la vie purement et simplement.